7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, comment parler des conflits ou du terrorisme aux enfants? Ils voient des images à la télévision, sur Internet. Ils entendent aussi l'inquiétude des adultes et forcément, ils posent des questions. À chaque âge, un mur d'incompréhension ou d'appréhension. Alors, comment évoquer cette violence avec les enfants? À partir de quel âge? Quel rôle pour les parents, les grands frères et le reste du cercle familial? Nous allons en discuter avec nos invités. Michael Stora, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue pour enfants et adolescents. Vous êtes aussi cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Vous vous intéressez surtout aux relations entre les images et le cerveau des enfants. Catherine Jacquet, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez l'association Les Petits Citoyens avec un journal en ligne, un hebdomadaire, destiné aux 7-11 ans qui traite de l'actualité, y compris de la plus brûlante.
Tout à fait.
Oui. Donc, vous n'avez pas été épargné par les événements ces derniers temps. Bien sûr, les voisins et les voisines, si vous êtes confrontés dans votre pays à des épisodes de guerre, d'attentats, de violences, appelez-nous pour dialoguer avec nos invités et poser vos questions au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, mais c'est plus compliqué que ça tout de même. Michael Stora, si on revient sur les attentats en France, qu'est-ce qui, selon vous, a marqué durablement les enfants, puisque c'est avec eux que vous travaillez, et les adolescents?
Moi, je pense que, au fond, c'est avant tout les parents dont il s'agit dans cette histoire. Ce sont eux qui, dans un premier temps, ont été au quotidien au courant, choqués, traumatisés, à des niveaux très différents selon leurs origines, leur culture, leur religion. Et après, les enfants, finalement, à l'école, on en a parlé de manière très officielle, souvent. Et puis, c'est ce qui se passe quand on revient à la maison. C'est quel type de discours on va avoir. Et c'est là où va se situer la capacité ou non qu'ont les parents à pouvoir l'aborder ou sans s'effondrer, ou alors en parlant de manière un peu trop froide, mais d'une certaine manière c'est un traumatisme et il s'agit pas de le nier. Donc c'est vrai que face au traumatisme, une des meilleures armes reste la parole, mais encore faut-il que les parents eux-mêmes puissent comprendre ce qui leur est arrivé, et c'est là où se situe souvent le souci.
Alors, il y a eu tout de même, c'est vrai, des images traumatisantes qui ont circulé sur les écrans pour les enfants, et puis cette émotion collective. C'est-à-dire que pour les enfants, il y a aussi cette question qui est, finalement, mes parents ne sont pas directement touchés là, dans leur famille, par leurs proches. Donc, d'où vient cette émotion collective? Ça peut être aussi une raison d'interrogation pour les enfants?
Oui, évidemment, et je dirais que ceux qui, le fameux dimanche, ont pu manifester ensemble, ont pu marcher ensemble, et a eu un impact, évidemment, de cohésion, de soutien entre nous, de pouvoir, à un moment, se serrer les coudes, mais au-delà, il est évident que peut-être que tout ça est très rapide. Je pense qu'on en est encore au point à essayer de vivre le deuil de ce qui s'est passé. Et le deuil, c'est quand même quelque chose qui dure un peu. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, les enfants aussi ont le droit. Et j'ai presque envie de dire que, par exemple, un parent qui s'effondre en larmes devant son enfant, ce n'est pas un problème. Au contraire, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de nos émotions. Si on parle de la France, par exemple, en France, on n'est pas toujours très à l'aise dans l'expression de nos émotions, avec une forme de pudeur, peut-être liée à notre culture chrétienne, fait que là, ça peut devenir d'autant plus traumatisant parce que le parent aura un discours un peu apprêté, un peu trop peut-être politisé, mais finalement, ce qui est important dans cette histoire, c'est l'émotion aussi, et c'est d'avoir la capacité à l'exprimer.
Alors, il y a l'émotion et la compréhension, Catherine Jacquet. Vous, votre quotidien, votre journal numérique hebdomadaire s'adresse à des enfants à partir de 7 ans. C'est l'âge auquel on est censé s'intéresser aux événements importants de l'actualité?
C'est l'âge auquel on est le plus enclin à comprendre, à commencer à comprendre les choses, à s'interroger et donc automatiquement à pouvoir participer au débat. Ce qui nous semble important, c'est le débat d'idées. C'est la première étape du développement de l'esprit. Et ce que l'on essaye de faire au quotidien, c'est développer des outils d'accompagnement aux enseignants, aux animateurs, aux parents, pour qu'ils puissent échanger, partager, dans l'objectif que leurs enfants puissent se faire leur opinion. Parce que les émotions, et j'entends tout à fait, je suis tout à fait d'accord, il faut vraiment les partager, et les idées sont tout autant.
Alors il y a les émotions, puis il y a les questions, ce qui est typique chez les enfants d'un jeune âge, Michael Storr. C'est que les enfants parlent, posent des questions, puis parfois reposent 5 fois la même question, même si on a répondu à cette question.
Peut-être qu'il n'a pas la réponse qu'il souhaite. On peut s'interroger, parce que c'est vrai que la question de la compréhension est importante, mais déjà, on va dire, c'est comprendre ce que l'on vit soi. Je pense que le parent reste tout de même le porte-parole, le porte-pensée.
Donc le parent doit d'abord parler de lui-même, de ce qu'il vit, de ses
évidemment,
émotions.
Parce que le gros problème, soyons nets, c'est que même les parents eux-mêmes n'en comprennent pas tous les enjeux de ce qui s'est passé.
Oui.
J'ai presque envie de vous dire que même les politiques eux-mêmes, on voit à quel point, suite à l'émotion, il y a eu un désir d'analyse de ce qui s'est passé, qui était très important, parce que, au fond, la parole de l'expert permet de saisir, mais néanmoins, on ne sait toujours pas réellement pourquoi cet endroit-là, etc. Donc c'est vrai qu'on a vu des débats d'idées plutôt au collège-lycée, autour de ce que c'était la caricature, la liberté d'expression, mais on voit bien que derrière, il y a eu des jeunes, souvent musulmans, qui l'ont vécu comme une insulte, etc. Donc on voit que finalement, les impacts vont bien au-delà, et peut-être que, comme si cet attentat était venu, au fond, ouvrir un débat qui n'a jamais réellement eu en France, qui dépasse largement, d'une certaine manière, au fond, l'émotion.
Et un débat qui n'a jamais vraiment eu lieu, et c'est d'ailleurs pour ça que les parents sont assez désemparés quand les enfants rentrent de l'école, ou peut-être que les enseignants, eux, au moins, ont préparé une séquence de dialogue avec leurs élèves. C'est pas forcément le cas avec les parents. Catherine Jacquet, la question du comment en parler, avec quels mots, ça s'est assez vite posé pour votre hebdomadaire, Les Petits Citoyens.
Oui, tout à fait. Donc nous, notre réponse, c'est de dire, il faut évidemment parler aux enfants et leur expliquer, mais avant de leur parler, il faut les écouter, savoir ce qu'ils savent, savoir ce qu'ils croient, et ensuite reformuler avec des mots simples, puisque les enfants, en fait, imaginent toujours des choses, se font des idées, donc il faut vraiment échanger. On peut penser qu'un enfant qui est dans une pièce d'à côté n'entend pas. On sait très bien qu'il va se faire ses propres interprétation, d'où des angoisses pour plus tard. Donc, on part du principe qu'il faut réagir simplement et avec des mots simples. Alors, on a créé donc les petits citoyens qui sont 5 personnages, 5 enfants de 7 à 11 ans et qui vont permettre une communication par les pairs. Donc, c'est-à-dire que les enfants vont pouvoir, par le biais des petits citoyens, découvrir et comprendre les situations et des mots. Donc les petits personnages des petits citoyens, en fait, donnent le change et les enfants
s'identifient. Assez neutres en principe.
Assez neutres. Ils s'identifient, ils ont chacun un niveau de classe différent, donc les enfants s'identifient à eux et ces petits personnages deviennent vraiment porteurs de messages. D'où la communication est plus facile. L'idée toujours de des productions, c'est de dire tu as un avis, oui, mais moi j'en ai un autre. Mais toi aussi, t'as le droit de pas avoir le même que le mien. Et ce qui nous enrichit, c'est justement ces différences et ces échanges. D'où l'importance aussi d'avoir ces petits personnages et ne pas passer que par la communication des adultes. C'est ce qui fait un peu aussi l'intérêt et le succès de nos outils aujourd'hui.
À vous qui travaillez beaucoup sur les images, Michael Storra, quand on regarde les chaînes de télévision ou qu'on écoute tout simplement la radio, c'est vrai que l'actualité fait qu'on passe de guerre en attentat et d'attentat en guerre, avec des figures militaires partout, de l'Ukraine au Nigeria, au Mali, l'Afghanistan, le Pakistan, la menace terroriste en Europe. Finalement, tout ça forme quoi comme magma dans la tête des enfants? Est-ce qu'on le sait?
C'est très anxiogène, évidemment, tout ça est très anxiogène, et c'est vrai que même si le parent est dans ce qu'on appelle en psychanalyse un parexitant, c'est-à-dire qu'au fond il va venir comme un paravent de la réalité extérieure pour protéger son enfant. Mais si lui-même est anxieux, il pourra pas jouer ce rôle-là. La problématique après, c'est la manière dont peut-être les médias vont traiter les choses. C'est-à-dire, comme on le sait, il y a un travail qui est à chaud, où le journaliste lui-même filme sans comprendre ce qui se passe. Ce qui est peut-être différent à la radio et dans la presse écrite, où parfois on peut prendre un peu plus de temps, qui est un luxe d'ailleurs dans votre métier. Donc c'est vrai que je pense que, aussi bien dans le traitement, mais même avant les attentats, le journal de TF1, pardon, pas de TF1, le journal télévisé, je veux pas, est très anxiogène. Et dans mon premier livre, je vais de manière très ironique dire peut-être qu'il faudrait l'interdire au moins de 18 ans. Parce que, aussi bien dans son traitement, à tous les niveaux, on n'a pas de compréhension. Et je pense
avec des événements qui sont quand même très mis à plat, mais on a peu de notion, ne serait-ce que des distances géographiques, par exemple, des événements qui nous touchent de plus ou moins près, de plus ou moins loin.
Vous avez raison. Le fait qu'on ait une vision de ce qui se passe à l'autre bout de la planète, mais parce que c'est dans son salon, va créer une proximité. Et on l'a vu à certains moments où les gens, parfois, avaient l'impression que la violence était en bas de chez eux. Et voire jusqu'à voter des votes extrêmes.
Et elle l'a été en même temps il y a quelques jours. Alors tout ça,
oui,
est complexe
évidemment,
pour les enfants.
C'est tout à fait complexe, aussi bien pour les enfants, mais à nouveau, je le dis, pour les parents. Et vous savez qu'en ce moment, beaucoup de gens veulent travailler sur la question d'aider les parents. Parce que c'est là où se situe aussi un des grands problèmes.
Vous nous appelez, les voisins, les voisines, si vous vous sentez concernés par ce sujet, la violence extrême, les conflits, les menaces d'attentats, où que vous soyez dans le monde. Comment en discuter avec vos enfants, les enfants qui vous entourent? 33 1 84 22 71 71. Yeah. Yes, I've been away. Still not in this hop hopping today. Been holding out cause I'm done with the album. I should do what Beyonce and drop it today. Still be trying to top it today. Still flowing a provocative way. Still gonna blow this rocket away. And I brought ice in like I'm making a cake. I'm killing vampires. I'm raising the stakes. My paper situation blew like I was raising the states. My album got heroic cause they say with the dates. And all you rappers, I'm back. You're dead.
One thing I beg you, God bless me with us.
James or LeBron and versus me versus you is worthless. I am he who all you rappers worship. I do this right, I'm straight. Y'all the cursive. You were rapping when I broke out. Your flow got me allergic. That MI flow is clean. Your whole style is detergent and it's urgent. My return in streets is feeding, streets is yearning. It's a warning. Climate is changing. I'm global warming. I'm beast that. Honey, you hear that buzz? You see me swarming?
Just gathering stamina. We've been to Canada, we've been to Ghana. Been balling in SA like Bafana Bafana. Rocking that Dolce and Gabbana. Been taking shots like a camera. Nobody rapping can kill me, I'm samurai. Killing myself if I want, but I don't want. So I keep rapping on and on. Hip hop phenomenon. We balling in Italian style like in Tamilon. Feels like I ain't coming on. Turn up, I'm coming to where my ears coming home. Get out my throne, get out my throne. Wait, no one to see the there. I understand, nobody rapping can sit in my chair. Yeah.
C'est Jules Abaga, King James chez 7 milliards de voisins. Nous parlons de la menace terroriste ou de la violence extrême, des conflits qui nous touchent de près ou de loin, mais surtout toujours avec cette question, ou plutôt la nécessité pour les adultes de répondre aux questions des enfants qui inévitablement se trouvent confrontés maintenant à des images sur Internet, sur les chaînes de télévision. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour discuter avec nos invités. On est en ligne avec William qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour William.
Bonjour.
William, je crois que vous êtes père de famille, vous avez un petit enfant de 10 mois, c'est bien cela ?
Oui, c'est bien ça.
Alors c'est étonnant parce que vous avez dit au Standard que vous vous sentiez concerné par la façon dont vous allez devoir parler, peut-être pas tout de suite à votre enfant tout de même, qui lui-même ne parle pas.
Non. Ils ont la possibilité, certains parents se sentent diminués et ne savent pas comment expliquer aux enfants Mais confronté aux images qui tournent en boucle sur les chaînes d'information, aux discussions des adultes ou encore à la vague d'émotions qui traverse le monde, les enfants ont besoin d'explications, même s'ils n'osent pas toujours le demander.
William, la ligne téléphonique est extrêmement mauvaise, mais vous ressentez, donc je vais lire aussi l'intervention que vous avez donnée au Standard, hein, vous ressentez la nécessité de parler aux enfants de ce qui se passe aujourd'hui, des conflits qui vous entourent. Vous estimez, en fait, vous dites qu'il faut parler à son enfant dès son plus jeune âge, c'est bien ça?
Oui. L'enfant a un âge raisonnable qu'il diffère de ça. Bien du mal, on doit supposer.
William, je suis désolée, la ligne téléphonique est vraiment très mauvaise. On essaiera peut-être de vous rappeler. Je redonne le numéro de téléphone pour les autres, 33 1 84 22 71 71. On peut comprendre, hein, l'anxiété d'adultes quand, notamment quand l'armée d'un pays est impliquée, est en force d'intervention dans des conflits. Bah, c'est le cas pour l'armée tchadienne, mais comme pour l'armée française. Là aussi, par exemple, pour les enfants, le fait de voir l'armée de son pays intervenir dans un conflit, que le conflit soit proche ou loin géographiquement, qu'est-ce que ça produit dans la tête d'un enfant, Michael Stora?
On va dire que c'est plutôt rassurant, d'une certaine manière, dans un premier temps, que dans cette sorte de société où parfois on ne sait pas trop où est le bien et le mal, que l'armée, en tant que représentant presque manichéen du bien, soit là pour protéger. Mais je voudrais juste revenir, parce qu'au fond, ce qu'a dit votre auditeur est très intéressant, parce qu'il a raison. Paradoxalement, on peut parler à un enfant qui ne sait pas encore parler. Françoise Dolto a été un très bel exemple, puisque pour des enfants qui ont vécu un grave traumatisme, qui est l'abandon, des enfants qui étaient donc orphelins, qui souffraient d'une très grave maladie qu'on appelle la colique idiopathique du premier trimestre, elle leur parlait de leur histoire. Et la colique a totalement disparu. Donc l'enfant, même s'il n'a pas les mots, il ressent une intention et une manière d'exprimer les choses. Et je trouve que ça, c'est très intéressant que le parent puisse, pourquoi pas, dire, après si c'est délirant...
Mais alors de là à parler de géopolitique, hein.
Mais pourquoi pas? Au fond, ce qui est très intéressant, c'est que le parent va transmettre quelque chose qui est de l'ordre d'un non-dit. Et c'est vrai que c'est l'émotion qu'il va y avoir dans les mots. On sait que c'est pas simplement le contenu de ce qu'on va dire qui est important. Le bébé est très attentif aussi au phrasé, à la musique de ce que l'on dit, au fait de le prendre ou non dans ses bras à ce moment-là. Et je crois que cette attention-là est importante. Après, il ne s'agit pas de faire de son bébé le dépositaire de toutes ses angoisses, etc. Mais je pense que votre auditeur a dit quelque chose de profondément juste.
Question simple, à partir de quel âge un enfant peut regarder le journal télévisé avec les images que l'on sait? Journal télévisé ou, enfin bon, je veux dire, chaîne d'information en continu.
Bah alors, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été jusqu'à penser que c'était interdit au moins 18 ans, j'exagère. Mais j'ai tendance à penser que l'entrée... paradoxalement en CP, disons, par rapport à la primaire, qui est un moment où l'enfant va commencer à développer une curiosité liée intellectuelle, ça peut être intéressant. Mais comme toujours, j'ai envie de dire, faisons attention au type de journal qu'on le regarde, sans faire de la publicité. J'ai envie de dire que le journal d'Arte est très intéressant, parce qu'on prend un sujet et on va le traiter sur plusieurs reportages différents. Et ça va donner une vision complète. Le show de l'info est très anxiogène.
Ça veut dire donner des clés de compréhension, ajouter des cartes, et puis parallèlement, juste après le journal télévisé, pourquoi pas discuter de l'hebdomadaire Les Petits Citoyens.
Discuter, quel qu'il soit, du sujet qu'on a vu ensemble, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir avec ses parents, que les parents soient présents sur ce type de d'outils. S'ils regardent le journal télévisé tout seul, c'est pas forcément intéressant pour eux. Par contre, s'ils le regardent en famille, on peut débattre et échanger après.
Je précise que Les Petits Citoyens, c'est gratuit, hein, c'est en ligne et ça se télécharge gratuitement. Vous restez avec nous tous les deux, on n'a pas fini de discuter de ces grandes questions, Michael Stora et Catherine Jacquet. Comment parler des conflits et des menaces terroristes aux enfants si vous êtes par exemple dans le nord du Cameroun, dans le nord du Mali? Évidemment, vos témoignages nous intéressent. Appelez-nous dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, comment parler de la guerre, du conflit, des menaces terroristes aux enfants et répondre surtout à leurs questions en fonction, bien sûr, des âges de l'enfant. C'est d'autant plus compliqué que le conflit se déroule dans son propre pays. Le numéro de téléphone est c'est le 33 1 84 22 71 71. On en discute avec nos invités, Michael Stora, psychologue pour enfants adolescents de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, et Catherine Jacquet, qui dirige l'association Les Petits Citoyens, qui est un hebdomadaire gratuit en ligne, donc toutes les semaines destiné aux 7-11 ans, et qui traite de l'actualité la plus compliquée, en décryptant, en essayant de remettre à plat avec les mots justes pour cette tranche d'âge, donc les 7-11 ans. Un hebdomadaire que vous pouvez tout à fait télécharger sur Internet où que vous soyez dans le monde. Nous accueillons une voisine qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Ramata, vous êtes à Dakar au Sénégal. Nous vous écoutons.
Bonjour Emmanuel, voilà, je voulais participer à l'émission et apporter mon témoignage parce que ma fille de 9 ans a été à l'école et une de ses camarades de classe lui a dit que vous les musulmans, vous devez arrêter de tuer les personnes. Mm. Et que je lui ai demandé comment elle a réagi, elle est partie de dénoncer ça à sa maîtresse. Mm. Et la maîtresse par contre l'a punie et après
Attendez, elle a puni qui la maîtresse là?
Elle a puni la fille qui lui a dit, vous les musulmans, arrêtez de tuer les gens. Mm. Donc, j'ai fait mes propres investigations pour voir. J'ai interpellé sa camarade de classe pour lui demander pourquoi elle a dit ça. Elle m'a dit qu'il n'y a personne qui lui a dit. Elle a entendu seulement autour d'elle les gens qui parlent et qu'elle en a fait sa propre conclusion. Mm. Donc, je voulais simplement dire que, voilà, les enfants ici, on ne parle pas avec eux. On les implique pas dans les discussions et à un moment donné, ils ont peur de poser des questions et à la fin, ils se font leurs propres conclusions du débat des grandes personnes. Ils se font leurs propres idées et ce qui est très, très, très dangereux. Mmh.
D'autant plus dangereux, là, si je comprends bien, d'après votre témoignage, Ramata, peut-être votre fille est dans une école internationale, c'est ça, parce que vous êtes dans un pays majoritairement musulman, ça peut sembler assez surprenant de se faire accuser de musulman dans un pays majoritairement musulman. Donc, votre fille est dans une école internationale, c'est ça?
Oui. Oui, elle est dans une école privée catholique, dans une école internationale.
D'accord, oui, je vois. Et dans cette école-là, vous déplorez finalement qu'on n'ait pas tendu la perche aux enfants pour mettre à plat les discussions de ce qui s'était passé. Vous faites allusion là aux attentats en France ou à d'autres menaces ailleurs?
Non, parce qu'il faisait allusion aux attentats en France. Mm. Vu que dans le pays, à travers presque toute la sous-région, ils ont fait des manifestations, même à l'intérieur du pays, et des gens sont un peu partagés sur la position du président. Donc, sur ce, ça a fait l'objet d'un débat au sein des foyers, au sein des télévisions, des médias.
Oui, mais pas à l'école.
Au sein des enfants. Voilà, pas à l'école. Mais du coup, les enfants n'ont pas été impliqués, on ne leur a pas expliqué. Et on les a laissés faire leur propre opinion sur le sujet.
Oui, alors justement, quand il manque une pièce au triangle, c'est-à-dire l'enfant, l'école et la famille n'a pas forcément aussi la capacité, la famille peut-être est impliquée elle-même dans un avis très très défini, très tranché, il manque un élément de neutralité autour de la connaissance à l'école, non, Michael Stora?
Oui, évidemment, et en même temps, là, c'est intéressant parce qu'il y a un contexte très précis, une école privée catholique dans un pays majoritairement musulman, où finalement...
Donc, qui reçoit majoritairement des enfants musulmans aussi, en général.
Sûrement, alors je ne sais pas exactement, mais en même temps, voilà, il y a eu un débat qui est passé par une agression. Et c'est vrai que, au fond, là, la question de se comparer est très intéressante. Les enfants ont besoin de se comparer aussi, de saisir. Et c'est souvent en se comparant, en se différenciant, qu'on peut paradoxalement se rassembler. Et je pense que c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. Et finalement, même si ça prend des tournures un peu agressives, malheureusement parfois beaucoup trop, ça allait être trop loin, mais d'une certaine manière, ça permet aussi de mieux saisir les enjeux et de comprendre. Et les enfants, il semblerait que cette petite fille qui a eu cette parole malheureuse a simplement est allé à écouter ce qu'on appelle l'opinion. Mmh, mmh. Et il n'y a pas plus dangereux que l'opinion. Mmh, mmh. Et c'est évident qu'il est important à ce moment-là, de pouvoir comprendre plus précisément.
Se comparer pour se rassembler, voilà une phrase effectivement qui va laisser des traces. Ramata, alors vous, du coup, comment faites-vous à la maison avec votre fille de 9 ans ?
Donc là, je suis obligée de lui expliquer, de commencer par déjà lui expliquer le contexte, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui est à déplorer, sur quoi la religion quelles sont les valeurs de la religion et quelles sont les choses qui ne font pas partie de la religion et que d'autres gens ont fait et qu'il faut déplorer. Donc j'essaie un peu de lui expliquer en tant que musulmane, de lui expliquer que eux, ils ont peut-être fait des choses qui ne nous plaisent pas, mais ça ne justifie pas des actes prouver, et que dans notre religion même, ils disent qu'une personne qui tue, il faut le tuer. Donc, certainement, on ne recommande pas à des gens d'aller tuer d'autres gens. Donc, sur ce, j'essaie de lui expliquer et elle pose après des questions dont j'ai peur de lui apporter des réponses. Et des fois même, j'ai peur de lui dire exactement. À un moment donné, je suis obligée de donner mon propre opinion. Donc, je ne pourrais pas lui dire exactement. J'essaie d'être un peu souple avec mes réponses.
Oui.
Je ne sais pas si c'est une bonne chose à faire ou bien je dois...
Être un peu souple, oui. Alors, être un peu souple avec les réponses ou être au contraire plus sûr de soi pour être moins anxiogène avec son enfant. On sent bien que les parents sont quand même très démunis, là, Michael Stora.
Mais je pense qu'au-delà d'être parents, je pense qu'on est un peu perdu, on est un peu paumé, et c'est vrai que on tente chacun à notre niveau de donner des réponses, mais vous voyez bien, nous sommes dans un studio parisien, chacun avec nos origines ethniques, et à un moment, je reviens sur cette idée, c'est qu'on est pris par nos investissements affectifs par rapport à ce qui s'est passé, selon ce qu'on pense être ou pas juste. Et cette femme, issue de la culture musulmane, se retrouve face à un paradoxe. Charlie a attaqué le prophète. En même temps, c'est donc un blasphème. Et en même temps, on n'a pas tué. Et dans le Coran, qui reprend en grande partie l'Ancien Testament, il y a des paroles œil pour œil, dent pour dent, il faut tuer. Mais tout ça, normalement, sont des phrases symboliques. Le gros problème, c'est qu'on voit qu'un appauvrissement de l'islam, fait souvent par les salafistes, a été de prendre au pied de la lettre certains mots qui sont d'une violence extrême.
Et Catherine Jacquet, quand justement vous mettez en place la ligne éditoriale d'un journal destiné aux 7-11 ans, est-ce que vous aussi, vous vous posez des questions et les adultes de l'équipe peuvent se sentir aussi démunis sur les mots qui vont être utilisés et les explications qui vont être fournies?
Tout à fait, c'est la raison d'existence de notre association. Ce qu'on veut, c'est éveiller à la tolérance, justement, et à l'esprit citoyen. Donc, pour ce faire, on essaye de, encore une fois, avec des mots simples, d'aider les parents, les enseignants ou autre population à communiquer. Je pense qu'il faut, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est montrer qu'il faut jamais s'arrêter de s'exprimer, même dans des situations aussi graves, et parler comme on peut avec de la liberté d'expression avec ses enfants. C'est-à-dire que quelques situations qu'on a vécues, il faut quand même rappeler qu'on doit vivre ensemble, que il y a différentes religions dans le monde, que normalement tout le monde peut vivre ensemble, mais que certaines personnes pensent autrement.
Ouais. On en a une autre voisine qui nous appelle également de Dakar et qui veut réagir au témoignage de Ramata. Bonjour Fatou, vous êtes en ligne avec nous maintenant en direct chez 7 milliards de voisins.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons.
Voilà, moi je voulais juste dire que chez moi c'est pas pareil du tout parce que mes enfants fréquentent une école où toute l'actualité est commentée, comme le décès de Nelson Mandela par exemple, etc. Même Charlie aussi. Et il est extrêmement difficile de cacher aux enfants les informations. Il suffit de tourner le dos pour qu'ils zappent. Ils ont France 2, ils ont France 3, etc.
Ouais, et Facebook sur les téléphones portables.
Voilà. Et donc du coup, moi j'ai trouvé que c'était plus simple, en fait, de discuter avec eux, comme dit l'expert qui est là-bas, et de leur dire la position de chaque groupe, par exemple. Je donne l'exemple de Charlie Hebdo. En fait, lorsque vous appelez, l'enfant se rend compte qu'il y a un problème. Dès que vous appelez, ils savent qu'il y a un souci. Et donc, ils posent des questions. Et donc, moi, ce que j'ai fait, moi, c'est de leur expliquer ce qu'ils ont fait, ce que Charlie a fait. et la riposte des frères, et ensuite de leur dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et ensuite, c'est ça le problème, il y a un glissement qui se fait sur Boko Haram, et donc du coup, effectivement, les enfants sont constamment angoissés, et la solution que moi j'ai trouvée, c'est de leur expliquer ce qui se passe. Alors là, je pense qu'ils sont un peu plus sereins, ils savent, en fait, ils peuvent se dire... Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des... surtout qu'il y a toujours une comparaison avec ce qui se passe à la maison. Il y a un conflit qu'il faut gérer.
Oui.
Et donc, ils font un peu le...
Ah oui, ils font un parallèle avec ce qu'ils ont vu dans les médias.
Voilà, tout simplement.
Il y a des espèces de raccourcis qui se télescopent. Ça vous semble logique, ça, Michael Stan?
Totalement. Il y a toujours un télescopage entre ce qui se passe à la maison, dans des choses aussi bien visibles et invisibles, dans les relations émotionnelles, et en effet, avec ce qui se passe à l'extérieur de la maison.
Dieu merci, les conflits à la maison ne se terminent pas par les armes. Néanmoins, l'enfant peut faire un amalgame.
Oui, parce que le premier monde, c'est... le premier Dieu, c'est quand même ses parents, tout de même. Et c'est vrai que c'est très intéressant de remarquer que, au fond, les lois symboliques, qui est de ne pas tuer son prochain, c'est les parents qui la donnent. Et on sait que malheureusement, moi, les enfants que je peux traiter, il y a une défaillance dans ces lois. Et finalement, certains que j'ai pu avoir, qui sont peut-être des jeunes délinquants ou autres, vont se nourrir de la violence comme un moyen, malheureusement, pour certains de passer à l'acte. Et c'est vrai que tous les jeunes qui ont commis en France ces attentats ont fait l'école de la République française, tout de même.
C'est pour ça qu'on rappelle aussi quand même souvent de faire attention à toutes les utilisations des réseaux sociaux pour les enfants, à quel âge qu'ils soient. Parce qu'aujourd'hui, même si Facebook ne devrait pas être accessible en dessous de 13 ans, l'ensemble des enfants ont facilement l'information et la traduisent de leur manière. Mmh. Et encore une fois, derrière, ça crée beaucoup de craintes. Mmh. Donc,
alors
il faut changer.
Il y a aussi la question de la distance, parce que Fatou nous disait... Merci d'ailleurs Fatou pour votre témoignage. Fort intéressant, parce que Fatou est dans un pays, le Sénégal, qui n'est pas touché directement par la menace Boko Haram. Ça se situe pas du tout dans la même région géographique. Boko Haram est aussi une menace terroriste qui inquiète des enfants en France également.
Ah oui,
au point que vous en avez fait un numéro, le dernier numéro de l'équipe citoyen.
La une de notre hebdo de cette semaine, où on explique justement que depuis le début de l'année, Boko Haram a fait de nombreuses victimes, et on parle et on décrit un petit peu le contexte en donnant la définition de certains mots comme ce qu'est une secte, tout en évidemment ne faisant aucun amalgame avec les autres faits, mais on défend les idées et on se bat pour essayer d'expliquer ce qui se passe dans ces pays-là. Donc avec la discute minute qui suit et qui, entre enfants, permet de donner son avis.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 si vous vous sentez concerné par le sujet. Comment parler, comment évoquer la violence, les conflits, les menaces terroristes, qu'elles soient dans votre pays ou dans la région ou plus loin. No more your freaking bullshit, no more your chocolate lies, no more you putting me down, deceptive blue eyes. Wake up and smell the coffee, wake up and take a pill. You think I wouldn't go on without you, you really think I'll fail. You really are a fool, you sentimental fool, and I kind of feel sorry for you. What's good around, you talking me down, but I found out that so it was you, so it was you. You picked up the knife and you cut me in two. You stabbed me in the back and ain't twisted it in. Oh, 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 you left me for dead again. No more you blame Jesus, why don't you pick a lane? I thought that you were normal, but you're devil insane. Try to keep you grounded, cause it's no good for my health. But you really can't save a man from himself. There's so much I can say before I turn to break all ties with you. Cause what's good around, you're talking me down. But I found out, so it was you, so it was you. You picked up the knife and then you cut me in two. You stabbed me in the back and then you twisted it in. For dead again, so comment parler des conflits aux enfants? Je voudrais vous lire quelques messages sur le fil Facebook. Guy à Dakar, il est camerounais, nous dit qu'il est primordial d'élucider auprès des enfants les pourtours, les contours de cette vaine barbarie qui est colportée par les rois de la haine. Il ne faut surtout pas éluder les points les plus sombres du terrorisme. L'enfant doit savoir toutes les énormités qui émanent de cette calamiteuse gangrène, car plus il en sait, plus il s'arme de lucidité. Il sera prêt à contrer toute velléité qui lui sera proposée. Au contraire, Pato de Bobo-Dioulasso au Burkina nous dit, moi je pense que le mieux c'est plutôt de cultiver chez les enfants les vertus morales telles que le respect de l'autre, la solidarité ou l'amour, plutôt que de leur parler de choses qu'ils ne vont pas comprendre de sitôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Deux visions un peu différentes, non, Michael Stora?
Oui, on voit bien que d'un côté, et puis alors, en plus le style est quand même bien enlevé, qu'au fond il y a un désir d'avoir un discours politique quasiment, voire de science politique sur une compréhension de ce que c'est, d'où vient la barbarie, avec un point de vue sûrement peut-être historique, sociologique, avec quelque chose. Est-ce que l'enfant peut y comprendre quelque chose? Pas évident. Et j'ai presque envie de dire que, sans être dans le parler enfant, la deuxième proposition, qui est la dimension morale, citoyenne, et au fond de ce que font certains professeurs à l'école, c'est-à-dire l'instruction civique, l'instruction morale, est tout à fait intéressante.
Défendre la solidarité, la tolérance,
voilà, l'amour. C'est-à-dire on est quand même en France,
difficilement critiquable.
Concrètement, évidemment, et c'est vrai que ce discours de vivre ensemble, d'arriver à vivre ensemble et de comprendre ce qui fait qu'on n'arrive pas à vivre ensemble, du point de vue, et d'aider les gens à pouvoir se positionner, est important.
Vous remarquerez qu'il y a souvent des enfants qui demandent des détails sur, évidemment, les aspects les plus macabres de la violence, sur les armes, le sang, les plaies, etc. Qu'est-ce qu'on répond dans ce cas-là aux enfants? Ce sont plutôt d'ailleurs des questions d'enfants que d'adolescents.
Oui, bah allez-y.
C'est compliqué. C'est compliqué comme sujet, d'autant que pour certains, vers les jeux, etc., ils sont assez attirés par tout ça. Encore une fois, moi, je pense qu'il faut dire les choses, expliquer les choses, sans rentrer dans les détails plus que ça, parce que ça peut, à partir d'un certain âge, hein, ça dépend aussi des âges, mais avoir des conséquences douloureuses, et plutôt, évidemment, travailler sur le vivre ensemble, rappeler que on n'a pas le droit de tuer, on n'a aucun moment on a le droit de tuer, on a le droit de croire ce que l'on veut, mais notre monde est là pour accueillir l'ensemble des citoyens qui la composent, et que la valeur de la vie humaine est ce qu'il y a de plus important.
Et sur cette demande de détails macabres, alors plus ou moins cultivée d'ailleurs par les jeux vidéo, mais qui a toujours existé chez les enfants avant l'invention des jeux vidéo et des images médias, non, Michael Stora?
Oui, on est un peu dans l'ordre du non-vu et du non-dit. Peut-être qu'un enfant qui va chercher à poser des questions trop macabres, comme vous dites, peut-être aussi que dans les discours familiaux ou parentaux, on élude beaucoup de choses. C'est là où se situe le télescopage. C'est très compliqué à comprendre, mais ça veut dire qu'au fond, l'enfant, lui, dans ses questionnements, parfois pose une autre question beaucoup plus profonde. Pourquoi est-ce que vous faites semblant de nous donner à voir quelque chose qui n'est pas vrai? Et peut-être qu'en posant des questions, c'est comme une sorte, vous savez, comme les enfants testent les limites chez les parents, ils peuvent les tester aussi à un niveau verbal. Parce que demander des détails aussi macabres, c'est comme une forme de provocation, de dire, voilà, au fond, derrière cette question, c'est autre chose que je pose. Et c'est là où se situe le télescopage, c'est-à-dire, on comprend pas, même nous adultes, on va télescoper par rapport à notre propre histoire, sauf ceux qui ont été réellement présents lors des attentats et qui ont concrètement et directement été touchés. Mais sinon, on ne sait pas très bien, tout ça est quand même très, etc. C'est comme des gens qui ont eu des parents, des grands-parents qui ont été exterminés ou autres. On est dans la transmission, et pour finir les choses, il faut se dire que, puisqu'on fête les 70 ans
de la libération des camps, par l'armée russe.
Tout à fait. Il faut, des études ont montré qu'il faut à peu près 3-4 générations pour que malheureusement le traumatisme puisse s'estomper. Ce sont les traumatismes de guerre, et c'est très très compliqué. Et c'est vrai que s'il y a un travail à faire qui n'est pas qu'avec les parents, et on le voit, beaucoup d'ONG, de psy parcourent le monde pour aider les enfants à un moment, à travers le dessin, la parole ou autre, à pouvoir au fond, ce qu'on appelle une sorte de capacité à verbaliser, je ne trouve plus le nom précis dans le domaine de la psychologie, qui fait qu'on puisse colmater un traumatisme, parce qu'il n'y a rien de plus traumatisant que de ne pas le nommer. Le nommer, c'est une manière de redevenir acteur. Et je peux vous dire que si autant de jeunes jouent aux jeux vidéo, à des jeux de guerre, c'est peut-être parce qu'ils sont confrontés à trop d'images de guerre où ils sont passifs. Le jeu vidéo va leur permettre paradoxalement de redevenir acteur d'une image qu'ils ne maîtrisent pas.
Alors vous, ce que vous proposez justement, Catherine Jacquet, c'est d'être acteur dans les discussions avec, vous avez mis au point aussi des jeux avec des cartes, des questions où vous ne proposez pas d'ailleurs de réponses toutes faites, mais c'est aussi une forme de reprendre la main sur ces anxiétés, ces inquiétudes pour les enfants.
Tout à fait, on a des jeux de débat qui s'appellent on devrait pas, pareil, pas pareil, simplement pour lancer la discussion. On a une petite collection de lectures et séances parlées sur différents thèmes, du respect des droits de l'enfant, du harcèlement à l'école, de la guerre, et on intervient aussi dans toute structure éducative, et notamment via la Fédération Léo Lagrange, qui est très présente dans des pays d'Afrique, puisqu'il faut savoir qu'avant l'école, après l'école et dans toute période structure éducative, l'enfant peut aussi s'épanouir et a la chance de rencontrer justement des animateurs, des gens différents avec lesquels il peut échanger hors de son contexte familial. Donc ça, c'est très 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 important, d'où la multiplication de nos outils via les vidéos et des jeux aussi, mais qui sont des jeux sur le handicap, l'égalité filles-garçons, etc. Je vous invite à découvrir.
Un internaute pose une question intéressante, Kalilou, qui nous dit: le plus traumatisant finalement, c'est quand un enfant voit d'autres enfants massacrés, comme par exemple les images qui ont circulé sur les attaques au gaz en Syrie qui ont touché de nombreux enfants, et c'est vrai que les photos étaient assez terrifiantes. On franchit un degré dans l'anxiogène pour l'enfant, Michael Stora?
Oui, évidemment, évidemment, parce que au fond, ces questionnements autour de la conscience de soi et la conscience de sa mort, normalement, n'arrivent qu'à l'adolescence, véritablement. Et c'est vrai que confronter l'enfant à une sorte d'autre semblable qui est mort en tant que victime, c'est très traumatisant.
D'autant plus que c'est pas dans l'ordre des choses.
Non, en général, c'est dans les contes de fées. La plupart des contes de fées mettent en scène de la mort d'enfants, soyons honnêtes, c'est jamais rarement édulcoré. Mais là, c'est de l'image vraie. C'est de l'image vraie, et je vois que beaucoup de jeunes, parfois trop jeunes, vont sur des sites terriblement anxiogènes et très violents, et beaucoup à l'adolescence d'ailleurs, vous savez, il y a des décapitations, des trucs terriblement glauques, et on se demande qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans. Est-ce qu'ils ne vont pas chercher quelque chose d'une mort réelle, parce que peut-être ils se réinterrogent sur leur propre mort. Donc c'est plutôt à l'adolescence. Donc c'est vrai que l'enfant voyant ça va évidemment être traumatisé, et c'est
alors,
vrai.
Alors comment on débriefe ensuite à la maison? Si jamais l'enfant a parlé des images.
Je pense que je me suis permis au tout début de leur dire, c'est-à-dire que le parent d'abord, il parle avec son émotion, et à partir de ce moment-là, il ne faut pas être dans le déni. C'est peut-être la chose la pire, c'est le déni. Et c'est-à-dire de ne pas vouloir voir. Il ne s'agit pas, les parents ne savent pas toujours trouver les bons mots, mais ils peuvent exprimer tout simplement que c'est horrible, que c'est terrible, et etc. selon la manière. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à penser que quand un enfant est trop petit, évitons d'allumer le journal télévisé qui parfois nous balance des images de manière violente en soi.
Il vaut mieux les regarder plus tard, lorsque l'enfant est couché, sur Internet, c'est
oui,
ça ?
Oui, par exemple, ou alors, voilà, peut-être prendre le temps lors du repas, c'est un autre, de parler au-delà des images.
C'est ce qu'on a fait pendant une heure, effectivement. Catherine Jacquet, le mot de la fin, c'est pour vous et les petits citoyens. Vous dirigez l'association avec ce journal en ligne hebdomadaire qui essaye de remettre un peu des mots sur des choses assez terribles.
Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est vraiment de dire aux parents de protéger les enfants. C'est quand même la base de tout. Nous, on avait fait une petite discussion et on avait sorti auprès des enfants, disant, vous savez, les terroristes, parce qu'on parlait évidemment de la situation, ont des forces mais pas de super pouvoirs. Ça permet d'être et de rester dans la réalité, donc communiquons de cette manière aussi.
Merci à tous les deux, Catherine Jacquet, l'association des petits citoyens, le journal en ligne donc est gratuit, destiné aux 7-11 ans et qui traite de l'actualité. Michael Stora, vous êtes psychologue pour enfants et adolescents et cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Merci d'être passé par le studio 7 milliards de voisins. Merci à vous aussi les voisins pour vos interventions et les voisines, et merci à toute l'équipe et les Léonore Krenik, Jonas Malé-Solars, Didier Cherouz, Romain Dubrac. Pour toutes vos réactions, vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr. Demain, 7 milliards, un peu de légèreté, ça ne fera pas de mal. Toutes les tendances de la mode avec notre partenaire, le magazine Brune. Et vous êtes mandatés, les voisins, pour nous envoyer vos observations, les plus beaux looks sur le macadam dans votre ville. À demain.